Allô, allô, ici Ciné Herri.
En 1945, 2 mois seulement après la libération de la ville, le metteur en scène italien Roberto Rossellini réalise Roma Città Aperta, connu en France sous le titre Rome Ville Ouverte. Considéré comme le premier film néo-réaliste, il forme une trilogie avec Paisa, qui sortit en 1946, et Allemagne Année Zéro en 1947, qui traite de la guerre ainsi que de la résistance au nazisme. En 1944, Rome est déclarée ville ouverte, tandis que les nazis occupent la capitale italienne, les résistants, pourchassés, s'organisent et se cachent. Ainsi, le chef d'un réseau de résistance communiste et l'un des dirigeants du Comité de Libération Nationale, l'ingénieur Manfredi, qui est traqué par la Gestapo, trouve-t-il refuge chez un résistant imprimeur, Francesco. Grâce à ce dernier et à sa future épouse, Pina, interprétée par Anna Magnani, Manfredi rentre en contact avec Don Pietro, le curé de la paroisse qui lui procure de faux papiers. Pour composer le personnage de ce prêtre, Rossellini s'est inspiré de l'histoire du curé, Don Morosini, entré en résistance et exécuté en 1944 par les nazis. Quant au petit Marcello, le fils de Pina et de son premier mari décédé, il participe avec d'autres enfants de son âge à des actions spontanées de sabotage. Mais alors que Manfredi s'apprête à s'enfuir de la ville grâce à la complicité de Don Pietro, la Gestapo les arrête tous deux ainsi qu'un déserteur autrichien. Ils seront exécutés par les nazis, tout comme Pina, abattue dans la rue devant ses compatriotes pour avoir simplement couru derrière le camion de prisonniers dans lequel se trouvait son amoureux Francesco. En rupture avec l'esthétique d'avant-guerre, Rossellini a adopté un parti pris documentaire, servi au mieux par la sobre musique de Renzo Rossellini et d'excellents comédiens. Son film, tourné en décor naturel avec très peu de moyens, et la présence des gens du quartier témoignent d'un style épuré et concis qui n'exclut pas, loin s'en faut, un engagement politique. Cette réalisation représente une exception au regard des autres œuvres analysées jusqu'ici. En effet, point ici de jeu trouble des identités. Au contraire, les rôles tenus dans chacun des deux camps apparaissent bien tranchés, sans pour autant être caricaturaux. Sûrs de la légitimité de leur combat, les nazis considèrent leurs agissements non pas comme des exactions, mais bien plutôt comme des actes de légitime défense qu'il s'agit de mener contre des terroristes qui violent les droits des occupants garantis par les traités, comme ils le prétendent. Pour bien appréhender leur logique, Rossellini resserre la focale sur le major Fritz Bergmann, l'archétype même du nazi, qui ne cesse d'ordonner des séances de torture et des exécutions. Persécuteur et massacreur, il croit bel et bien en la culpabilité de ses victimes et en la justesse de son combat. Rossellini met alors en relief la circularité implacable des représentations qui mobilisent Fritz Bergmann. En effet, le metteur en scène montre un exécuteur convaincu de sa juste cause, enfermé dans la prison mentale de son système de représentation. Un système symbolique qui fait sens et légitime à ses propres yeux l'ensemble de sa conduite et le régime politique dans lequel elle s'inscrit. Mais par quel mécanisme psychique peut-il donc rester en accord avec ses actes? Comment peut-il consentir à être un assassin, voire à s'en enorgueillir au même titre que tous les dirigeants nazis? Contrairement à Saint Thomas, Bergmann voit ce qu'il croit, tout simplement parce qu'il crée symboliquement ce qu'il croit dans une espèce de self-fulfilling prophecy. C'est précisément à propos de ce type de posture psychique, de ce travail de requalification des persécutions en actions légitimes, que René Girard a évoqué l'existence d'une illusion persécutrice, véritable croyance granitique. En effet, nous savons, grâce au concept de rationalisation construit par Freud, que la perception d'une action ne correspond pas à un simple processus d'enregistrement passif de la réalité. Elle implique, au contraire, tout un dispositif de reconstruction et de défense psychique. De sorte que le recours à une forme de violence extrême, comme celle que le major fait subir à Manfredi et à Don Pietro, se trouve, en l'espèce, psychiquement étayé et légitimé par l'élaboration d'un système explicatif d'apparence rationnelle aux propres yeux du bourreau. Ainsi, celui-ci peut-il justifier ses agissements? En fait, il se considère dans son bon droit, alors même que la logique véritable qui les anime lui échappe. C'est précisément ce dispositif mental que Freud veut pointer dans ses développements consacrés à ce qu'il nomme la toute-puissance des idées, lorsqu'il écrit que les choses s'effacent devant leur représentation. Or, ce mécanisme culmine dans une séquence du film particulièrement capitale. Il s'agit du moment emblématique où l'on voit le major Bergman entrer en conflit avec le capitaine Hartmann. Ce dernier, après avoir longuement et fidèlement combattu pour le Troisième Reich, se montre tout à coup désenchanté et dans l'incapacité de continuer à soutenir plus longtemps la politique nazie. Autrement dit, il n'est plus en mesure de rationaliser son action. En effet, non seulement il ne croit plus à ce qu'il fait, mais il émet des doutes sur la pertinence et la légitimité de l'idéologie qu'il avait jusque-là servi avec loyauté. Ce faisant, il s'attire les foudres du major qui déclare ainsi à propos de Manfredi. S'il ne parlait pas, cela signifierait qu'un Italien est l'égal d'un Allemand et qu'il n'y a pas de différence entre une race de seigneurs et une race d'esclaves. Quel sens aurait alors le combat? Mais cette dernière question n'est lancée qu'à des fins purement rhétoriques. Il ne la formule que pour mieux l'écarter, car il entend à l'évidence continuer de s'enfermer dans la circularité de sa construction mentale. Avec cette scène, Rossellini déconstruit et nous donne à voir au plus près le mécanisme de rationalisation. Il nous montre comment ce dispositif préserve le persécuteur de la moindre remise en question. En l'occurrence, il protège Bergman contre toute dissonance cognitive, ce qui lui permet de se maintenir en cohérence et en harmonie avec lui-même, et de hurler de rage devant Don Pietro. « Nous vous tuerons tous, tous, jusqu'au dernier !» Tout au contraire, le capitaine Hartmann perd pied. Il se montre pour sa part déchiré entre les actes qu'il a commis, la politique qu'il a servie auparavant et la réalité telle qu'elle lui apparaît désormais. « Oui, je suis saoul, oui, je me saoule pour oublier. Résultat, je redeviens lucide. On ne sait que tuer, 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 couvrant l'Europe de cadavres. Et de ces tombes naît la haine, partout la haine. Nous serons anéantis par la haine, sans espoir, nous mourrons tous sans espoir. » Quant aux résistants italiens qui luttent pour libérer leur patrie, qu'ils soient communistes comme Manfredi ou chrétiens comme Don Pietro, ils ne tiennent aucun discours sur leur combat. Ils se montrent simplement dignes, sûrs de leur cause et solidaires les uns des autres. « Nous ne sommes pas des héros, mais ils ne sauront rien », déclare Manfredi. Quant à Don Pietro, un instant avant d'être fusillé sous le regard des enfants, il s'exclame. « Il n'est pas difficile de bien mourir. Il est difficile de bien vivre. » Le parti pris dramaturgique retenu par Rossellini consiste en contrepoint de la rationalisation logoréique des nazis à lui opposer, séquence après séquence, le silence implacable des résistants. En fait, ce choix s'avère aussi puissant sur le plan esthétique que pertinent sur le plan conceptuel. En effet, c'est une manière pour le réalisateur de souligner que les résistants n'ont rien à rationaliser car leur combat est tout simplement légitime. Cette construction du scénario n'est donc pas anecdotique et correspond à l'engagement politique du réalisateur. Dans une dernière séance du film, le major Fritz Bergmann ordonne qu'il soit indiqué sur l'acte de décès de Manfredi crise cardiaque et que figure uniquement la fausse identité que le résistant avait choisi d'endosser pour fuir, celle d'un certain Giovanni Episcopo. Avec cet ultime jeu pervers autour de l'identité d'un mort, ce trafic mortifère autour de son existence, les nazis choisissent une fois de plus le déni. En effaçant leur assassinat, ils refusent de l'endosser et tout se passe comme s'ils n'avaient assassiné personne. Mais cela revient en fait à le tuer une deuxième fois, semble nous dire le réalisateur. Rossellini a écrit une nouvelle page du cinéma mondial avec Rome, ville ouverte. Son récit, dépouillé, particulièrement sobre pour aborder la tragédie de trois condamnés à mort par la barbarie nazie, reste cependant dépourvu de toute sécheresse. Par-delà les décennies, il suscite chez le spectateur une émotion toujours aussi puissante. Il témoigne d'un art maîtrisé, de l'analyse politique et de la narration cinématographique, plus que d'une simple soumission à la réalité, comme on s'est trop souvent contenté de le dire.